Lumière.
Vacarme.
Je suis rentrée du travail, j'ai pris le train. Je suis arrivée à la gare et d'un coup, je dis mais il fait tard, qu'est-ce que je fais? Et puis ça a viré et puis j'étais comme dans un rêve, tout était un peu flou. J'ai eu un automatisme, je suis rentrée chez moi et j'avais juste envie de dormir. C'est tout ce que je voulais, mais éternellement.
Vacarme. Suicide, mieux vaut prévenir que laisser mourir. Marc Hughes, Véronique Marty. Bonjour à tous. Près de 1000 personnes mettent fin à leur jour chaque année en Suisse, sans compter les suicides assistés. Et 10 à 20 fois plus tentent de le faire. Et si le taux de suicide a fortement diminué depuis les années 80, il stagne depuis quelques années. Pourquoi ? Les autorités en font-elles assez en termes de prévention ? Le suicide reste un problème majeur de santé publique dans notre pays. Faudrait-il dès lors un programme national de prévention ? La Confédération vient de mettre en consultation un plan d'action en la matière. Les moyens seront-ils à la hauteur de l'enjeu ? Toute cette semaine, dans Vacarme, nous nous interrogeons sur la prévention du suicide. Comment endiguer un fléau aux origines multiples et souvent cumulées ? En parlant, en brisant les tabous, en donnant la parole à ceux et celles qui le côtoient et le combattent. Comme les collaborateurs de Stop Suicide. 8 salariés et une dizaine de bénévoles pour cette association romande basée à Genève, créée en décembre 2000. Des jeunes qui parlent aux jeunes. Rappelons que le suicide reste la première cause de mortalité des 15-29 ans. Nous sommes en décembre 2015 et l'association fête ce soir-là, au Théâtre Pitoëf à Genève, son 15e anniversaire. Voici « Trop jeune pour mourir », c'est un reportage de Marc Hughes, il est réalisé par Jean-Daniel Mottet.
Vous m'entendez ? Oui. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là ce soir. Je suis Mélanie Arditi, présidente du comité et présidente de l'association. Stop Suicide, en deux mots, c'est des jeunes qui s'engagent pour la prévention du suicide. Et notre défi aujourd'hui, 15 ans après, c'est de professionnaliser nos emplois et nos activités tout en gardant l'ADN et la valeur de Stop Suicide, c'est-à-dire à innover, à inventer et à mobiliser toujours davantage de jeunes. J'invite maintenant Florian Heminger, cofondateur de l'association, pour qu'il nous raconte ce qui s'est passé il y a 15 ans pour qu'on en soit là aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Florian Hirminger, Stop Suicide fête ses 15 ans ce soir. Cette association, c'est vous avec d'autres qui l'avez créée. Comment est né Stop Suicide ?
C'est né vraiment d'une réaction suite au suicide. Pour certains d'entre nous, c'est un ami proche. Pour d'autres, c'est une connaissance.
Et pour vous ?
Pour moi, c'était une connaissance lointaine. J'étais surtout proche des amis proches. Et j'ai vu ces amis s'effondrer. Littéralement, je veux dire, il y avait un sens de la culpabilité très fort. Ils étaient perdus. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle. Il faut qu'on parle de ce qui vient de leur arriver. Il faut qu'on trouve des espaces pour parler de ça. Parce que si eux sont perdus avec ça, où est-ce qu'ils vont aller ?
Vous étiez dans le même collège que la victime.
Alors, moi, j'étais au collège Candolle, et puis la personne qui s'est suicidée, et puis le groupe d'amis proches était à Calvin. Mais Calvin-Candolle, c'est très mélangé selon quel courant on prend, on a nos classes là-bas. Et donc, on était une vingtaine vraiment de touchés assez fortement autour de ses amis proches. Et c'est là qu'il y a eu vraiment une réaction, c'était les endeuillés d'un côté, puis ceux qui soutenaient les endeuillés de l'autre. Mais pour tous, ce qu'on avait tous en commun, c'est que ce qui nous a frappé au cœur, c'est ce silence qu'on nous imposait, en fait, que l'école imposait, que l'institution imposait en nous disant « mais on ne va pas parler de ça, vous êtes complètement fous, vous ne savez pas de quoi vous parlez ». Et moi, je me rappelle même une fois que quelques jours après, on m'a dit, quand je suis allé voir la direction de l'école, on m'a dit « mais vous inquiétez pas pour eux, tout va bien pour eux ». Mais c'était mes amis, je veux dire, je les connaissais, je les voyais, je voyais bien qu'ils n'allaient pas bien. On peut me dire à la direction qu'ils vont bien, moi je vais vous dire qu'ils ne vont pas bien. Mais il y avait une sorte d'imposition, une sorte de deuxième couche de silence imposée par ce qu'on appelait à l'époque les adultes autour de nous.
Et vous créez cette association que vous appelez Stop Suicide. Ça veut dire qu'on peut, on dit qu'on peut empêcher un suicide.
Alors avant même l'association, on organise une marche silencieuse Stop Suicide. Parce que pour nous, une fois qu'on prenait la rue pour crier contre le suicide, on avait fini, on n'avait pas prévu les 15 prochaines années. Mais c'est vrai qu'il y a profondément cette volonté de dire, dès le départ, que comme on dit Stop Sida, on dit Stop Suicide. On dit Stop au suicide des jeunes parce que ce n'est pas un choix. Le choix d'un jeune n'est pas de se suicider, c'est un non-choix. Il n'y a plus d'autres solutions à disposition si ce n'est la mort. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup insisté dès le départ qu'on n'a jamais cru qu'une personne choisit de se suicider.
En 15 ans, vous avez mené un certain nombre de campagnes, même un nombre certain. Vous vous souvenez d'une particulièrement ?
Vraiment une qui était en fait la dernière du temps où je travaillais encore à Stop Suicide, ça remonte à 2008. On a fait une campagne axée sur le mythe du « celui qui parle du suicide ne va pas passer à l'acte ». On croit toujours que cette personne qui en parle tout le temps, elle ne va pas passer à l'acte. Ceux qui vraiment passent à l'acte, ils sont tristes au fond de la salle, dans un coin, ils ne parlent jamais à personne. Et ça, c'est le plus grand mythe autour du suicide des jeunes. En réalité, ce qu'on sait, c'est que 70% des jeunes qui ont fait une tentative disent en avoir parlé avant. 70%, 7 sur 10, c'est énorme. Et ces gens-là, la société les laisse tomber si on ne réagit pas quand on vient nous parler du suicide en disant « mais de toute manière, moi je sais très bien que celui qui vient en parler ne passe pas à l'acte ». Quand on parle du suicide des jeunes, en réalité, il y a souvent très peu de préparation, mais il y a une recherche d'aide pendant longtemps. On essaie de trouver l'aide, on essaie de s'agripper quelque part. Les jeunes qui ont fait une tentative et qui disent en avoir parlé ont plus consulté des professionnels de la santé que les jeunes en général. Donc ils ont cherché cette aide-là. Et là, il faut vraiment qu'on déstigmatise le suicide, que les professionnels de la santé s'enlèvent le tabou du suicide de la tête, parce que si eux refusent de prononcer le mot suicide, eh bien le jeune, lui ou elle, ne le fera pas non plus et il passe à côté de la discussion. Quand un jeune rentre pour parler du suicide, si on parle du suicide, on est dans la discussion. Si on parle de son mal de ventre, de son mal de dos ou de ses problèmes de sommeil, on n'est jamais en train d'en venir à la vraie discussion. Et là, il y a une vraie responsabilité des professionnels de la santé de vouloir parler du suicide, parce que ce n'est pas un tabou chez les jeunes, c'est un tabou chez les adultes qui les entourent. Ça, en tout cas, c'est l'expérience qu'a fait Stop Suicide et qui continue à être faite encore aujourd'hui, 15 ans plus tard.
Maintenant, j'aimerais inviter sur scène Johanna pour son témoignage, qui sera accompagnée de Noah Zanz, toutes deux danseuses et professeurs de hip-hop.
Johanna, on est ce matin au bord du lac, oui. Dans la ville où vous vivez. Vous venez souvent là ?
Oui. Alors, quand j'ai besoin de réfléchir, quand j'ai besoin de prendre une pause, me libérer l'esprit et puis juste d'avoir... ces montagnes, pour être paisible, j'aime. C'est quelque chose qui me fait du bien.
On se pose sur le banc, là ?
Oui.
À la soirée des 15 ans de Stop Suicide, c'était il y a quelques jours, vous avez témoigné sur votre tentative de suicide et vous avez dansé. Quelle place tient la danse dans votre vie aujourd'hui ?
Alors, je dirais que c'est mon côté émotionnel, totalement. Parce que je suis quelqu'un qui a de la peine à exprimer mes émotions. Et la danse, c'est où je peux tout ressentir à la fois, colère, joie, tristesse, tout ce que j'ai de la peine à ressentir tous les jours, en fait.
Alors, au cours de la soirée, vous avez brièvement témoigné d'une tentative de suicide il y a quelques années. Avant d'essayer d'attenter à vos jours, comment vous viviez ? Quelle jeune fille vous étiez ? C'était il y a combien de temps, d'abord ?
Alors, c'était il y a 6 ans, exactement, presque à la même période, d'ailleurs. Et puis, je travaillais énormément. À côté, je faisais une formation que j'espérais qu'elle allait m'aider, mais au final, pas vraiment.
Une formation de quoi ?
Une formation en street dance. Mais oui, je vagabondais. Au fait, je faisais énormément de trajets de train, parce que j'habitais en Valais à ce moment-là. Et je travaillais après Morges, donc 3 heures de train par jour, facilement.
Quel emploi ?
J'étais vendeuse. Je faisais le visuel aussi. Décoration.
Vous saviez quel rapport avec vos parents à l'époque ?
Compliqué. Donc, j'ai perdu mon père, j'avais 5 ans, c'était en 1994. Puis ma mère, j'ai jamais eu un contact très rapproché avec elle, j'ai toujours eu un peu de la peine. Bon, c'était une artiste aussi, artiste peintre. Je me suis jamais vraiment ouverte à elle, sentimentalement. elles non plus. Donc on avait un rapport, ouais, je dirais normal, mais quand même très distant. Donc on a toujours eu de la peine, ouais, pour les sentiments.
À cette époque, vous aviez des amis, garçons, filles?
Oui, oui. Peu, mais ceux sur qui je peux toujours compter.
Il vous arrivait de déprimer, d'avoir des moments de nostalgie, voire de désespoir?
Nostalgie, oui, par rapport à mon père, parce que je ne l'ai pas connu. Je dirais plus nostalgique, mais pas déprimé.
Alors à cette époque, donc, se produit cet événement pour vous important, bouleversant, du suicide de votre amie. Vous, oui. Vous pouvez nous parler d'elle?
Oui, alors je vais employer un petit surnom qu'elle avait, c'est Celiria. Elle était rayonnante, pétillante, toujours en train de rigoler. Elle chantait d'ailleurs, elle avait une voix exceptionnelle, elle faisait tous les karaokés de la région, l'accompagnait souvent d'ailleurs. Elle aimait aussi la danse. Tout ce qu'on a envie d'avoir, une jumelle, on était pareil. Donc on parlait vraiment de tout, on était très ouverte pour chaque sujet. À part la mort, on évitait un peu, mais sinon on parlait de tout.
Et puis, comment vous avez appris sa disparition?
Je l'ai senti au fait quand j'étais à Paris, parce que je suis allée à Paris voir une compétition de danse. Et quand je suis revenue, j'ai mangé avec mon ex-petit ami. Et il avait changé d'attitude, il était très froid, comme s'il s'empêchait de me dire quelque chose. Et j'arrêtais pas de lui poser la question où est-ce qu'elle était ma meilleure amie, parce que j'avais essayé de la contacter durant le week-end, sans succès, téléphone éteint. Et puis là, j'ai su. En un regard, j'ai su. Puis il m'a conduit chez sa maman, où j'ai vu la photo dans le salon. Et là, c'était le choc total. Donc j'ai pas parlé pendant 5 jours. J'arrivais pas à sortir un seul mot, j'arrêtais pas de pleurer. J'étais comme dans un rêve, quand on a envie de se réveiller, mais qu'on n'arrive pas.
Elle vous avait dit quelque chose qui rétrospectivement a résonné ensuite, comme une demande, un appel ou...
Quelques jours avant, elle m'avait appelé en pleurs parce qu'elle n'était pas bien, mais c'était un peu une habitude qu'on avait quand on n'était vraiment pas bien, on s'appelait, ou quand on était très contente. Et là, elle était juste moralement un peu à côté de la plaque. Elle me disait qu'elle avait juste besoin de souffler quelques jours pour se détendre un peu, mais j'aurais jamais pensé à ça.
On peut revenir, si ce n'est pas trop difficile pour vous, sur ces obsèques?
Les obsèques, il y a eu énormément de monde. Je me rappelle d'une foule incroyable de gens que j'étais hallucinée de voir autant de monde. D'ailleurs, ça m'a mis dans un état encore plus comme dans une bulle. J'avais juste pas envie que ce monde soit là. Ouais, c'était compliqué de voir autant de monde et puis d'imaginer qu'elle s'était sentie autant seule.
Johanna, on va pas dire comment votre amie s'est supprimée. On peut dire que c'est une façon très violente. Est-ce que la façon dont elle s'est supprimée a pesé aussi chez vous?
Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'était violent, que c'était autant traumatisant. Je ne pense pas, parce que chaque suicide est traumatisant au final. Ça m'est resté, oui. J'ai eu un peu peur de certains endroits suite à ça. Avoir l'impression d'être attirée d'ailleurs par ces endroits. Non, chaque suicide pour moi est violent.
Comment vous êtes alors dans votre tête, dans votre vie, dans les semaines et les mois qui suivent sa mort?
J'étais encore plus axée sur le travail. J'essayais de pas penser à autre chose, mais ça revenait à chaque fois. Mais j'essayais quand même d'avoir ce point qui était mon travail, concentration, faire le plus de choses possible pendant mon travail. Après, par contre, je sortais plus. J'écrivais plus, parce qu'un temps j'écrivais des poèmes, j'arrivais plus à mettre de mots du tout. Déjà que j'avais de la peine, j'étais encore plus fermée, on dirait.
À cette époque, il vous arrive d'avoir vous-même alors des pensées suicidaires?
Oui. Oui, alors quand je faisais la vaisselle, quand je prenais des fourchettes ou des couteaux pour les laver, j'avais des pensées un peu... Ça vient d'un coup, en fait, c'est comme une image, c'est comme si on se voit soi-même. Se foutre un coup de couteau quelque part, ou bien un coup de fourchette, ça fait peur, et du coup on lâche tout, puis on va ailleurs. J'avais quand même, ouais, pas mal de cauchemars aussi, où je perdais ma langue, ou où je sautais dans de l'eau, où je m'envolais, puis d'un coup je tombais. Donc c'est vraiment spécial. Hein.
Est-ce qu'à cette époque, vous vous appuyez sur un produit, une béquille, l'alcool, la drogue, les médicaments ?
À l'époque, non. J'ai mon psychologue qui m'avait... Parce que là, je voyais quelqu'un qui m'avait prescrit une sorte de calmant que je prenais dès que j'avais un pic qui était insupportable, une sorte de crise d'angoisse. Là oui, je le prenais. Mais je ne m'étais pas du tout tournée du côté des drogues ou de l'alcool.
Ces crises d'angoisse, c'était comment ? Vous arriveriez à décrire ?
Ça prend au niveau de la poitrine. On a les larmes qui commencent à couler, on ne sait pas pourquoi. Une douleur, comme si on était en train de nous piquer avec quelque chose d'énorme, je veux dire presque du fer au milieu de la poitrine. On a juste envie de prendre de l'air, on n'y arrive pas. On tourne en rond, et puis crise d'angoisse de plus en plus forte. Puis moi, le souffle complètement coupé. Ça m'est arrivé 2 fois. Aller à l'hôpital, oxygène. Bon, je suis asthmatique aussi, donc du coup, c'est un peu plus...
Ça rejoignait votre asthme, oui.
Ouais.
Et alors, ce que vous décrivez très bien, là, la sensation dans la poitrine, c'est, vous diriez, bah, oui, physique, d'après ce que vous dites, et psychique en même temps, c'est dans la tête et dans la poitrine en même temps
Alors oui, parce que quand j'ai eu des crises d'angoisse, je pensais toujours à des choses très négatives, donc... La mort de ma meilleure amie, qu'est-ce que je fais de ma vie Puis de plus en plus, ça nous oppresse, au fait.
Le jour où vous tentez de vous suicider, vous avez une crise comme celle que vous venez de décrire ?
Non. Non, pas de crise d'angoisse. Du tout. Je suis rentrée du travail, j'ai pris le train. Je suis arrivée à la gare. Et d'un coup, je dis, mais... Il fait tard, qu'est-ce que je fais ? Et puis ça a viré, et puis j'étais comme dans un rêve, tout était un peu flou. J'ai eu un automatisme, je suis rentrée chez moi, et j'avais juste envie de dormir. C'est tout ce que je voulais. C'est dormir, et puis plus personne me parle, plus personne vienne vers moi, me demander comment ça va.
Dormir sans limite.
Dormir, c'est tout ce que je voulais, parce que je dormais plus aussi. Donc mes nuits étaient très courtes, 3 heures par nuit. Voire 4 au mieux. Donc ouais, j'avais envie de dormir, mais éternellement.
Et du coup, qu'est-ce que vous faites ?
Je suis rentrée, j'ai pris tous les médicaments que j'avais pour me relaxer. Et je me suis posée sur mon lit et je sais que j'ai envoyé un message à une de mes amies. Je lui ai dit, ma sœur va rentrer, prends soin d'elle. Quelque chose comme ça. Elle m'a appelée. Et je sais que j'ai répondu, mais je ne sais plus ce que j'ai dit parce que j'étais dans un état, mais j'étais en train de m'endormir, en fait. Elle a fait vite. Elle a fait très vite. Je lui dois ma vie, hein, parce qu'elle a tilté tellement vite. Donc je sais qu'on est venu me chercher. Je me rappelle d'une voiture. Je ne sais même plus qui c'est qu'il y avait dedans. Et je me rappelle que je suis arrivée à l'hôpital, j'ai dû dire combien est-ce que j'avais pris de pastilles. Donc mon ami avait pris la boîte qui était à côté de moi. Bravo, hein. D'ailleurs, en situation d'urgence, toujours prendre les médicaments, si c'est médicamenteux avec. Et puis, je sais qu'on m'a tiré, on m'a mis sur un gros lit, puis on m'a fait boire un truc noir immonde, et je me rappelle de plus rien. Mais à ce qui paraît, j'ai dormi très longtemps, dans un état un peu comateux, donc j'ai eu beaucoup de chance. Parce que pour quelques minutes, je serais plus là.
Quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous voyez ?
Alors j'ai vu ma petite sœur et j'ai dit merde. Merde. Je dis plus jamais. J'ai vu son regard et puis on ne peut pas décrire du tout un regard pareil parce que c'est intense et ça fait peur. Et en même temps, on se sent complètement débile et on a honte. Et puis on a juste envie de descendre du lit et puis... Puis de faire en sorte comme si de rien n'était. Il me fallait au fait ça, je pense, pour comprendre que la vie, c'est précieux. Les gens autour de nous, ils comptent sur nous, même si des fois on se sent très seul, ben pour tout le monde, hein, mais qu'on n'a juste pas le droit de faire quelque chose comme ça.
Comment ont réagi votre entourage, vos proches, vos frères et sœurs, votre maman?
Alors, ça va sonner choquant. Ils sont pas au courant. Parce qu'à ce moment-là, en 2010, j'avais 20 ans. Donc, majeure, vaccinée, je me disais, il n'y a que ma petite sœur qui est au courant. Et des amis qui ont vécu, au fait, le moment présent. Et par après, ben, ceux qui ont été appelés parce que j'étais à l'hôpital. Mais sinon, personne n'est au courant.
Avec le recul, Johanna, pourquoi vous avez tenté de vous suicider? Vous avez une réponse à cette question?
J'avais un trop-plein. J'ai jamais trouvé vraiment quelqu'un avec qui parler. Parce qu'en général, les gens disent « oui, je te comprends, mais ça va passer ». Puis en fait, c'est ces phrases-là qui m'ont plus donné envie de m'ouvrir complètement. Et j'avais un trop-plein d'émotions que j'arrivais pas à gérer toute seule. Et c'était un peu ma solution de sortie. C'était qu'on me laisse tranquille et puis que j'avais juste besoin de dormir. J'avais envie de disparaître pour un petit moment. Peut-être me réveiller ensuite et puis dire « oh, tout a changé ». Bonjour.
Bonjour.
Vous illuminez le lac avec votre chanson.
Bonjour.
Bonjour. Comment allez-vous?
Mais bien, et vous?
Très bien. Vous voyez, je chante, c'est que ça va bien.
Nous chanteriez une autre chanson?
Maintenant, je ne sais pas si... C'est... Une boucle blonde qui volait au vent, mutinée vagabonde, une soirée de printemps. Une boucle blonde au reflet cendré, mutinée vagabonde dans un soir d'été, dans un soir d'été.
Florian Hürminger, au tout début des années 2000, la Suisse était encore un des pays d'Europe et peut-être même du monde avec un des taux de suicide les plus élevés. Quel chemin parcouru en 15 ans?
Ce qu'on voit vraiment en 15 ans, parmi vraiment la tranche d'âge jeune, c'est-à-dire 15-29 ans, on voit une diminution du nombre de suicides. On la voit d'autant plus dans les cantons qui ont mis en place la prévention du suicide, les cantons romands, le Tessin et Zurich. Et ça reflète simplement ce qui s'est passé à l'international. Quand on voit la Finlande, qui était le pays où il y a le plus de suicides au monde en l'an 2000, en l'an 2000, un plan national de prévention du suicide a été mis en place. Aujourd'hui, alors que c'est un pays nordique, il y fait sombre, il y fait froid, etc., etc., bien aujourd'hui, c'est un pays qui a un taux de suicide proche de celui de l'Italie, très bas par rapport au reste de l'Europe. On sait que la prévention marche, si elle est bien faite, il faut y faire attention, il faut faire attention à l'incitation au suicide, il ne faut pas banaliser le thème, mais on sait que ça marche. Et pour moi, la grande question, c'est du coup, pourquoi on ne le fait pas?
Il n'y a pas de plan national de prévention du suicide à ce jour en Suisse.
Ruth Dreyfus avait annoncé, quand elle était conseillère fédérale, en 2001, elle avait annoncé que la prévention du suicide est légitime et qu'il fallait maintenant lui donner une base légale. Ça fait 14 ans. Moi, je ne travaille plus maintenant à Stop Suicide, mais je commence à être un peu, en tant que citoyen, un peu impatient quand même, face à un peu une bureaucratie inerte à Berne qui nous dit on ne peut pas vraiment faire de plan national parce qu'il nous manque une base légale. Il ne manque rien du tout. Il n'y a pas de base légale dans la Constitution. Je n'ai jamais vu alcoolisme non plus. Il faut une volonté d'agir, une volonté de prévenir, une volonté de coordination, ce qui se fait au niveau suisse, une volonté de soutenir les cantons qui ont pris des initiatives et qui sont un peu plus en avant, et surtout une volonté de prise en soin dans les structures hospitalières de jeunes suicidants. Un jeune suicidant, c'est pas comme n'importe quel jeune qui rentre dans un hôpital. Il y a besoin d'un entourage, on le sait maintenant, d'un entourage différent, et puis surtout, il faut être présent, il faut que ce soit disponible, parce que ça veut dire ça, la prévention du suicide.
À noter qu'il y a quelques jours, la Confédération a mis en consultation un plan d'action prévention du suicide qui vise à réduire le nombre de suicides et de tentatives. Les résultats de la consultation seront intégrés au plan qui sera ensuite approuvé par le Conseil fédéral d'ici la fin de l'année. À noter que Stop Suicide n'est pas une structure d'aide ou de soins. Elle ne tient pas, par exemple, de permanence téléphonique. Si vous avez besoin d'aide pour vous ou pour quelqu'un de proche, vous pouvez appeler le 143. C'est le numéro de la main tendue. le 147, la ligne d'aide pour les jeunes. Il existe aussi le site d'information ciao.ch, C-I-A-O.ch. Et puis pour tout commentaire, témoignage ou réaction au reportage de Marc Jules, vous pouvez appeler dès maintenant la boîte vocale de Vacarme, 058 236 236 0. La prévention du suicide est-elle suffisante dans notre pays? Que faudrait-il améliorer à votre avis? 058 236 236 0.
Vacarme, Marc Jules, Véronique Marty, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux, Jean-Daniel Mottet.
Demain, nous resterons avec l'équipe de Stop Suicide sur le terrain, cette fois dans une action de prévention auprès de jeunes filles en foyer.
C'est pas parce qu'on est harcelé qu'on va se suicider. C'est pas parce qu'on a des problèmes familiaux qu'on va se suicider. C'est pas parce qu'on est isolé qu'on va se suicider. C'est toujours parce que ces facteurs ou ces causes, elles sont cumulées. Donc c'est vraiment l'idée, je parle souvent pour imaginer de tourbillons où on se fait entraîner et à la fin on est tout en bas puis on trouve pas d'autre solution.
Le suicide, parlons-en, c'est un reportage à suivre demain dans Vacarme entre